1806-1807, la quatrième coalition échoue contre Napoléon. Jena, Hoherstadt en 1806, Eylau et Friedland en 1807, autant de batailles, autant de victoires de Napoléon contre la quatrième coalition. La puissance de la France est à son zénith. Ce pourrait être la paix définitive. Non, une quatrième coalition se prépare. Elle va rassembler la Russie, l'Angleterre, toujours là, et la Prusse, mécontente de l'influence que la France a prise en Allemagne. La Prusse mécontente ? Et de plus, elle déclare la guerre ? Non mais... Napoléon fonce vers la Saxe, rencontre les armées prussiennes à Jena, en Allemagne orientale, le 14 octobre 1806. Les 80 000 hommes de Napoléon écrasent les 50 000 combattants du Prussien Hohenlohe. L'empereur croit avoir battu toute l'armée prussienne. Mais il ignore qu'en même temps, 80 000 autres Prussiens, sous les ordres de Brunswick et du roi de Prusse, ont cru bon de se retirer vers l'Elbe. Mal leur en a pris. Sur leur route à Auerstadt, il y avait Davout, avec 25 000 hommes seulement. Et qui les a battus, leur prenant 115 canons, au grand étonnement de Napoléon, qui en ressent peut-être une pointe de jalousie. En une semaine, l'armée prussienne est détruite. Napoléon fait son entrée à Berlin le 27 octobre 1806. Autour des Russes, ils se sont enfoncés dans les plaines immenses et gelées de la Prusse orientale. À leur tête, Bennigsen, qui refuse le combat. Mais, parvenu à 30 km de Königsberg, entre Pologne et Lituanie aujourd'hui dans l'enclave russe Kaliningrad, près du village d'Eylau, il décide de protéger la ville d'Emmanuel Kant de l'invasion française. Kant, le père de la philosophie contemporaine, de la critique de la raison pure. Bennigsen dispose en ordre de bataille ses 72 000 hommes, dont 10 000 Prussiens et ses 400 canons. Napoléon l'attaque avec 53 000 hommes et 200 canons. Le 8 février 1807, en pleine tempête de neige, la bataille s'engage. Le pilonnage d'artillerie est particulièrement meurtrier de chaque côté. De plus, les régiments français d'Augereau, manquant de visibilité à cause de la tempête de neige, attaquent les lignes frontales russes, non pas de face, mais de biais, de sorte qu'ils défilent devant un feu nourri et incessant et qui fauche bon nombre de leurs rangs. Le centre de l'armée française a presque disparu. L'une de ses ailes est coincée dans un cimetière où les combattants s'affrontent au corps à corps. C'est alors que Napoléon fait dire à Murat
« Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là ?»
La plus célèbre charge de cavalerie de l'histoire va commencer. 10 000 cavaliers fondent sur les Russes et les mettent en déroute. À 7 heures du soir, Bennigsen ordonne à ses troupes la retraite vers Königsberg. La victoire est indécise. Le bilan est très lourd, plus de 40 000 tués ou blessés au total. Sur le champ de bataille, les blessés agonisent. On a commencé à creuser le sol gelé pour enterrer les milliers de cadavres. En rentrant à son bivouac, Napoléon a rencontré Larrey, le chirurgien de la grande armée, qui accomplit à chaque instant des exploits pour sauver les blessés, qu'ils soient français ou russes. Napoléon remarque que Larrey ne porte plus d'épée. Et il en fait la remarque au chirurgien qui répond
« Des Prussiens me l'ont prise. »
Alors, l'empereur lui tend la sienne.
« Prenez celle-ci et gardez-la en souvenir des immenses services que vous me rendez sur tous nos champs de bataille. »
On est certes un guerrier, on n'en est pas moins homme. Napoléon s'assoit à sa table, épuisé, ce 9 février 1807, au soir d'Eylau. Il laisse alors son cœur s'envoler vers sa Joséphine à qui il écrit vers 3 heures du matin.
« Mon ami, il y a eu hier une grande bataille. La victoire m'est restée, mais j'ai perdu bien du monde. La perte de l'ennemi, qui est plus considérable encore, ne me console pas. Enfin, je t'écris cette lettre moi-même, quoique je sois bien fatigué. pour te dire que je suis bien portant et que je t'aime. Tout à toi. Hello. Louis-Joseph Hugo, 1777-1853, qui avait participé à la bataille d'Eylau, la raconta à son neveu Victor encore enfant. Plus tard, en 1853, sur son île, en exil, Victor Hugo, le poète, se souvient de ce récit. Il raconte en vers la bataille où son oncle affronte les Russes, dans le fameux cimetière où les troupes françaises ont été acculées. Eylau, c'est un village en Prusse, un bois, des champs, de l'eau. Le soir, on fit les feux et le colonel vint. Il dit « Hugo ?» Présent. « Combien d'hommes ?» 120. « Bien. Prenez avec vous la compagnie entière et faites-vous tuer. »« Où ?»« Dans le cimetière. » Et je lui répondis « C'est en effet l'endroit. » La suite, c'est quand vous voulez, dans les œuvres complètes de Victor Hugo.
Victoire incertaine à Eylau. Le 14 juin 1807, les pendules sont remises à l'heure à Friedland, au sud de Königsberg. Le général russe Bennigsen attaque les Français qui l'encerclent dans le méandre d'un fleuve où 25 000 de ses hommes vont périr contre 6 000 Français. C'est bien Napoléon le plus fort, se dit alors le tsar de Russie qui, mécontent de la part prise au combat par ses alliés, déçu que l'Angleterre ne le finance pas davantage, décide de signer la paix avec l'empereur français. Il rêve même d'une alliance qui permettrait une domination franco-russe de l'Europe. Le 25 juin 1807, les deux empereurs se rencontrent sur un radeau aménagé au milieu du fleuve Niemen, à Tilsit. Leurs premiers mots ont fait le tour du monde et de l'histoire.
« Je hais les Anglais autant que vous !»
dit Alexandre, et Napoléon de répondre.
« Alors, la paix est faite. »
La paix, elle passe par la création du royaume de Westphalie que Napoléon offre à son frère, Jérôme, par le paiement d'une énorme indemnité de guerre que devra acquitter la Prusse, complètement démembrée par la création du duché de Varsovie, en réalité d'un État polonais. Et cela ravit celle que Napoléon a rencontrée l'année précédente, en 1806 à Varsovie, Marie Walewska. Mariée au comte septuagénaire, Walewski, elle a été poussée dans les bras de l'empereur à des fins politiques. Mais elle deviendra réellement amoureuse de cet amant aux grandes ailes, au point de lui donner un enfant, qui deviendra ministre de Napoléon III, et d'aller lui rendre visite en 1814, dans son premier exil de l'île d'Elbe. Comment abattre l'Angleterre ? En ruinant son commerce. Quels moyens utiliser pour y parvenir ? Le blocus continental. En quoi consiste-t-il ? Aucun navire anglais ou ayant relâché dans un port anglais n'entrera plus dans les ports de l'Empire français. Ce blocus continental répond au blocus maritime que pratique l'Angleterre depuis mai 1806. En décembre 1807, le décret de Milan précise « Les îles britanniques sont en état de blocus sur mer comme sur terre ». C'est un séisme pour les deux économies. L'Angleterre constate un effondrement catastrophique de ses exportations, son industrie est mise à mal, mais dans un premier temps, elle se ressaisit rapidement et trouve de nouveaux débouchés en Orient, en Amérique latine, aux États-Unis ou en Europe du Nord. Ces débouchés étant insuffisants, une grave crise s'installe outre-Manche. Elle aboutit, ainsi que Napoléon l'avait souhaité, au chômage, à la famine, au soulèvement des ouvriers qui vont briser les machines des industriels endettés.